En quête de science.
En quête de science, c'est l'expertise et la pédagogie d'Alain Sirou réunis pour comprendre ce matin que si la Terre est un vaisseau spatial, avec un équipage, avec une atmosphère, avec des ressources, eh bien ces ressources, Alain, elles ne sont pas illimitées, évidemment. À un moment donné, même les ressources naturelles s'épuisent.
Ah oui, vous connaissez la chanson, Wendy, il n'y a rien qui dure toujours. Alors on le sait pour le pétrole, le gaz, les énergies fossiles dont dépendent nos sociétés, mais on le sait beaucoup moins pour un certain nombre de minéraux dont le monde industriel est effrayant. Et on a fait un recensement récent sur les réserves minières. En fait, qu'est-ce qui nous reste sur la Terre à consommer? Et c'est surprenant. Par exemple, l'antimoine qui sert aux alliages, on n'en a plus que pour 10 ans. L'étain aura disparu dans 12 ans. Le plomb, l'or, le zinc n'existeront plus dans 18 ans. Il reste moins de 20 ans de réserve d'argent, 30 ans pour le nickel, un demi-siècle tout au plus pour le fer.
Ça ne se recycle pas, ça. Ça ne se recrée pas.
Alors, ça ne se recrée pas, ça peut se recycler.
Oui.
Mais brut en termes de ressources,
incroyable.
On peut dire que la cave est vide et que le monde industriel, tel que nous le connaissons aujourd'hui, en a pour un demi-siècle tout au plus. Après, il faudra faire autrement, et en tout cas sans ces ressources-là.
Bon, d'un côté, les ressources minières, la recherche qui permettra peut-être de les prolonger, vous le disiez. Et puis de l'autre, il y a d'autres ressources quand même. Moi, je pense au sable. Qu'est-ce que ça donne, le sable ?
Je vais vraiment vous surprendre. Le sable, aujourd'hui, c'est comme l'eau douce. C'est la deuxième matière la plus consommée au monde, après l'eau. Mais comme l'élément liquide, le sable est menacé. Pourquoi ? Parce qu'il est au cœur de nos sociétés, le sable. Vous en trouvez vraiment partout. Vous bâtissez des maisons, des ponts. C'est composé de béton. Le béton, c'est 75% de sable.
Oui.
Une maison, c'est 200 tonnes de sable. Une autoroute, c'est 1 km, c'est 30 000 tonnes de sable. Les vitres, 65% de sable. Les panneaux photovoltaïques, 99%. La lessive, les peintures, les cosmétiques, le papier, partout, il faut du sable. Notre société, Wendy, est basée et bâtie sur du sable. Et dans un papier récemment publié par le magazine Science et Vie, Sébastien Collin, qui est un géologue au BRGM, avoue que chaque Français consomme chaque année 6 tonnes de sable, de granulat.
Ouais.
Donc, on en consomme 23 fois plus qu'en 1900 et on va en manquer.
On en manque, parce que pourtant, regardez les déserts, il suffirait peut-être de l'importer et ça ne nous paraît pas en pénurie, le sable.
Oui, mais il y a sable et sable.
Ouais.
Parce que le sable qui sert dans le béton, c'est pas n'importe quel sable. Si vous prenez du sable du désert, donc fruit
enfin,
de...
Ouais.
Bah oui, c'est l'érosion éolienne.
Oui.
Donc c'est tout petit. Le sable qu'on utilise, en fait, il doit être... c'est des grains plus épais, de différentes tailles qui s'architecturent les uns aux autres, qui se collent, en fait. Donc c'est un peu comme l'eau douce, finalement. On va parler d'or blond. Le sable, c'est de l'or blond pour qualifier ces grains de quartz qui ont des bonnes propriétés mécaniques qu'on trouve plutôt dans le lit des fleuves, des rivières, des deltas et des plages. Donc tout ce qui est rare est cher, évidemment, et ça attire la convoitise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve de véritables mafias du sable au Maroc, en Inde, au Japon, en Californie, avec des gens qui volent du sable, des plages qui disparaissent, des écosystèmes entiers qui sont détruits. En France, on a stoppé ça grâce à une loi dans les années 90, mais il y a un vrai danger.
C'est comme l'eau douce, l'eau salée, on a le sable et sable. Les solutions envisagées par les ingénieurs, les scientifiques, il y en a pour faire face à cette pénurie qui s'annonce alors ?
Oui, il y en a plusieurs. Déjà, on commence à faire des prélèvements sous la mer, au large des côtes, là où il existait des sables à l'air quaternaire, à 130 mètres pardon, plus bas sous les eaux.
De la mer,
bon, c'est un prélèvement qui, je dirais, occasionne beaucoup de protestations d'associations comme le Peuple des Dunes qui dit s'inquiéter de l'impact sur la faune marine, et puis c'est quand même pas très très loin. L'autre solution, c'est de produire du sable artificiel, de casser des cailloux, sauf qu'il faut utiliser de l'énergie, des explosifs, ça fait du bruit, les gens n'aiment pas beaucoup ça. Bref, ça coûte cher, et puis vous avez des labos de recherche aujourd'hui qui travaillent à fabriquer des nouveaux bétons qui pourraient peut-être absorber des sables plus fins comme ceux du désert. Et puis, finalement, il y a quand même, comme pour le déchet dont on parlait avec Laurent Cabrol la semaine dernière, il y a peut-être une façon de recycler le sable présent dans le béton qu'on démolit. Bref, d'essayer d'avoir une économie circulaire avec des propriétés qui se dégraderaient moins qu'aujourd'hui. Bref, le sable, comme un grand nombre de ressources naturelles, doivent être regardées aujourd'hui comme des ressources à préserver. Comme l'eau, comme l'air, une condition obligatoire, ma chère Wendy, pour préserver le futur.
En 20 secondes, est-ce qu'il y aurait un matériau sur lequel on pourrait miser aussi demain dans ce cycle d'économie circulaire intelligente ?
Clairement le renouvelable, parce que ça, ce sont des ressources qui ne se reconstitueront pas. Et évidemment, on pensera au bois, qui est aujourd'hui sans doute plus solide que le béton, qui est recyclable et qu'on peut faire pousser tout en absorbant, je dirais, le CO2 de l'atmosphère. Bref, il va falloir être imaginatif, mais ça, finalement, faisons-nous confiance pour une fois.
Et en...